J'avais juste pas envie que ça s'arrête. J'aimerais ce matin vous parler d'émerveillement, de promesses d'émerveillement. Ça vous parle ? J'avais lu dans un livre, ou je ne sais plus, quelqu'un qui disait que les enfants de responsables d'église ou de pasteurs avaient leur vie étalée devant tout le monde et qu'il fallait qu'ils l'acceptent. Et j'en ai parlé à mes enfants et ils l'ont accepté. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée. Alors ça remonte à pas mal d'années quand même. Une belle-sœur de Rebecca, à l'époque, travaillait à Disneyland Paris et nous a proposé de nous faire rentrer gratuitement à Disneyland Paris. Comment ne pas résister à une telle offre ? Une journée pleine de promesses d'émerveillement ! À l'époque, Noah était bébé, donc vous pouvez imaginer que ça remonte à un petit moment, et ma maman pouvait le garder, donc on y est allé avec Rebecca, Célia... Non ? Ah non, on l'avait emmené ? Ah, elle était avec nous. Je me souviens plus, mais je crois qu'elle l'a gardé, ok. Mais en tout cas, il était tout petit. Célia devait avoir peut-être 4-5 ans, Nathan 2 ans de plus. Bref, les enfants étaient quand même très jeunes. Et on est arrivé pour cette magnifique journée, pleine de promesses d'émerveillement. Et on arrive à Disneyland et on rencontre des personnages qui sont 2 à 3 fois plus grands que les enfants, qui malgré leur grand sourire sont quand même un peu impressionnants. Et on a vite vu que pour les enfants c'était un peu stressant de voir ces choses-là et qu'il valait mieux se tenir à distance. Donc oui, les enfants, on va pas trop s'approcher de ces personnages. On va faire des manèges, il y a plein de manèges. Oh, regardez le manège de Blanche-Neige. Et donc nous sommes rentrés dans le manège de Blanche-Neige et nous avons passé le manège de Blanche-Neige à cacher les yeux des enfants puisqu'il y avait la forêt enchantée et la sorcière. Bon, on va se promener dans Disneyland, n'est-ce pas, pour profiter de la belle ambiance, mais c'était l'époque d'Halloween, avec des musiques inquiétantes et des gens déguisés qui faisaient peur aux gens. Bref, voilà comment s'est soldée notre journée. Je pense que nous avons battu le record de la famille qui est restée le moins longtemps à Disneyland. Promesse d'émerveillement pas tenue. Oui, j'aimerais vous parler d'émerveillement, mais de promesses tenues, parce que j'aimerais vous parler plus spécifiquement de la gloire de Dieu. Et j'aimerais aborder ce temps de prédication avec l'angle de ce qui se passe aujourd'hui, et Rebecca nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est le dimanche des rameaux. On a lu le passage dans Matthieu, et j'aimerais vous lire le passage parallèle de Luc. Luc 19, les versets 28 à 40. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qu'il avait envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus lui avait dit. Au moment où il détachait l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix sur la terre et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Waouh, il y a quelque chose de véritablement joyeux, festif qui est en train de se passer. Et on peut voir que dans les quatre évangiles, on voit quelques différences, en fait, suivant ce qui a marqué l'un ou l'autre des auteurs, suivant l'angle de vue qu'il a pris. Luc se concentre ici sur les disciples qui crient, mais on a lu tout à l'heure que Matthieu parlait d'une grande foule. Jean va même parler d'une foule immense. Matthieu et Marc parlent de ces cris « Hosanna » qui, comme Rebecca l'a dit, voulait initialement dire « Viens à notre secours, viens sauver », mais dont le sens a évolué et parle déjà à ce moment-là plutôt de gloire et de louange à l'honneur de Dieu, de ce qu'il a fait. Et Luc reprend ce « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », exactement les paroles que l'ange a prononcées quand Jésus est né. Alors oui, c'est la fête, c'est la joie. On voit cette foule immense qui exulte, qui éclame, qui honore Jésus en étendant leur manteau, en posant ses branches de palmier pour préparer son chemin et accueillir Jésus à Jérusalem. On entend ces cris de joie, l'émotion qui s'exprime, une belle fête spontanée, presque euphorique. Pourtant, deux des évangélistes vont tempérer cette démonstration joyeuse. Matthieu nous explique qu'au-delà de cette excitation, c'est la question de l'identité de Jésus qui est posée. Rebecca nous l'a lu tout à l'heure, verset 10, « Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on se demandait qui est-ce. » Et la foule qui l'accompagnait répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » La ville est en émoi, la ville est remplie d'émotions, pleine d'excitation, mais se demande, mais qui est ce Jésus? Et elle répond, un prophète. Pour ceux qui ont lu Matthieu, qui ont suivi ce récit, et nous l'avons fait pendant quelques mois, c'est maintenant clair que la foule passe complètement à côté de l'identité véritable de Jésus. Au travers de tout ce qu'il a montré, Matthieu, la réalisation des prophéties, Emmanuel, Dieu avec nous, il a commencé son évangile avec cette révélation, Pierre qui a dit « Mais tu es le Messie !» Et là, la foule dit « Mais c'est un prophète, juste un prophète. » Ici, Luc, comme Jean, nous dit que tous ces cris de joie viennent de tous les miracles qu'ils ont vus. Et c'est vrai qu'il y a de quoi exulter de joie face à tous ces miracles. Mais ici, ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus intense et crucial qui est en train d'arriver. Jésus vient pour mourir. Il le sait, il l'a annoncé déjà maintes fois, et le récit que nous avons lu de Luc continue avec ces quelques versets, la réaction attristée de Jésus. La foule crie, la foule est en émoi, et quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. Jésus pleura en arrivant à Jérusalem. Si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Et c'est vrai que nous connaissons la suite de l'histoire. Et cette fête improvisée, là, ces cris de joie, ils ont un petit goût doux et amer à la fois. Quel Jésus attendait-il, tous ceux qui sont là? Tous ceux qui crient, qui jettent leur manteau, tous ceux qui mettent des branches sur le chemin de Jésus? Quel Jésus attendait-il, tous ceux qui acclament « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » Cette expression, elle sort tout droit du psaume 118, qui parle de ce roi Messie, promis, ce fils de David, cette pierre angulaire, cette pierre principale de l'édifice, rejetée par les bâtisseurs, nous dit ce psaume. C'est la foule de Jérusalem qui crie. La foule de Jérusalem qui, quelques jours après, criera « Crucifie-le ! Crucifie-le !» quand Jésus sera devant Pilate. Que sont devenus ces bénis ? Soit le roi qui vient du Seigneur ? Où sont ces hosannas ? Où sont ces gloires à Dieu ? Alors oui, c'est une foule. Ça ne veut pas dire que c'est exactement les mêmes personnes, n'est-ce pas ? Mais alors quand Jésus est accusé, elles sont où ces personnes ? Elles sont où ceux qui acclamaient Jésus ? Quand d'autres voulaient le faire mourir ? Et si Luc nous dit que Jésus pleura sur Jérusalem, c'est qu'il sait pertinemment qu'au-delà de cet éclat de joie, le peuple n'a pas saisi ce qui est réellement en train de se dérouler à ce moment-là, au moment de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Mais finalement, qui a vraiment saisi à ce moment-là ce qui est en jeu, à part Jésus lui-même ? Et malgré ça, malgré le fait que la foule est en train de passer à côté de ce qui est réellement en jeu, ils louent Dieu, ils disent gloire à Dieu. Et non seulement Jésus ne les arrête pas, mais quand les pharisiens veulent faire taire les disciples, il leur rétorque que s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce qu'il est en train de se passer quelque chose qui mérite des cris de louange. Il y a quelque chose là qui est en train de se dérouler, qui touche à la gloire de Dieu, même si tous ceux qui sont là ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et ces cris à la gloire de Dieu méritent d'être poussés. Et ce matin, j'aimerais réfléchir un petit peu plus avec vous sur la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend derrière la gloire de Dieu ? La Bible parle tellement de la gloire de Dieu. Qu'y a-t-il derrière cela ? J'aimerais d'autant plus en parler que on en parle dans notre vision. Notre vision de dire « cheminons ensemble ». Cheminons ensemble, nous sommes une communauté, une famille unie. On en a parlé il y a 15 jours. Pourquoi ? Pour glorifier Dieu. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi pas un autre ? Il pourrait y avoir plein d'autres bonnes raisons d'être une famille unie et de cheminer ensemble. Qu'est-ce que c'est que la gloire ? Et en particulier, qu'est-ce que la gloire de Dieu que nous utilisons si souvent ? Eh bien, ouvrons un dictionnaire. Et j'ai pris le Larousse. Le Larousse, quand il parle de gloire, il nous parle de renommée éclatante, d'un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, de quelque chose ou quelqu'un qui suscite l'admiration. Si on regarde d'un peu plus près le texte biblique, dans le Nouveau Testament, le terme qui est utilisé est kavod. Kavod est un mot qui est associé, qui vient d'un autre mot qui veut dire poids. Donc d'une manière très simple, ce terme kavod signifie être pesant, avoir du poids. La gloire dans l'Ancien Testament, c'est avoir du poids, c'est peser. Peser en termes de richesse, peser en termes de pouvoir, peser en termes de puissance, peser en termes d'importance. Mais ce terme kavod, quand il est utilisé pour parler de la gloire de Dieu, il a aussi une autre connotation qui est en lien avec la lumière. Et on le voit dans l'Ancien Testament, les apparitions de Dieu sont souvent lumineuses, éblouissantes. On pense à la nuée qui conduisait les Hébreux dans le désert et qui s'est positionnée au-dessus du tabernacle. On pense à Moïse. À Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, qu'il parlait avec lui, il brillait tellement que quand il ressortait voir les Hébreux, il devait mettre un voile parce qu'il rayonnait tellement que c'en était effrayant. Le terme qu'on trouve dans le grec du Nouveau Testament correspond d'assez près à ce terme hébreu de kavod. Il est utilisé à propos de l'honneur, de la reconnaissance, d'un éloge, et il contient aussi cette idée de lumière. Et on se souvient dans Apocalypse, la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de soleil car la lumière de la gloire de Dieu l'illuminera. Alors, pour revenir plus spécifiquement à la gloire de Dieu, si on regarde les différents passages de la parole qui parlent de la gloire de Dieu, on voit que la Bible l'associe souvent, enfin parfois en tout cas, à certains attributs de Dieu. Elle parle de la gloire, de la majesté de Dieu. Elle parle de la gloire de son règne. Elle parle de la gloire de Dieu en parlant de sa justice. Elle parle de la gloire de Dieu en parlant de sa puissance, de sa bonté, de sa fidélité. J'ai entendu un pasteur dire, et je trouve que c'est une très belle définition, que la gloire de Dieu, c'est juste l'ensemble de ses perfections. C'est la somme de ses infinis. Et il est parfaitement saint, infiniment puissant, parfaitement juste, totalement souverain. Et sa gloire, à la fois, englobe tout ça et se retrouve dans chacun de ses aspects. Et finalement, quel que soit l'angle sous lequel on essaye de voir ou d'appréhender quelque chose de Dieu, quel que soit l'attribut ou la caractéristique de Dieu qu'on veut considérer, on se retrouve toujours devant quelque chose de tellement grand, de tellement parfait, de tellement infini, quelque chose d'infiniment glorieux, quel que soit l'aspect qu'on veut considérer. Quelque chose qui a tellement de poids, quelque chose devant lequel on ne peut que être dans l'admiration et l'émerveillement. Quelque chose d'impressionnant, peut-être même de trop impressionnant. Quand on lit l'histoire du peuple hébreu, on a beaucoup d'aventures qui leur arrivent, et dans Nombre 14, verset 10, par exemple, on est face à une situation où les Hébreux marchent dans le désert avec Moïse et Aaron et contestent leur autorité. Ils en ont marre que ce soit eux les chefs. Et ils se révoltent. Ils veulent dire « on va retourner en Égypte ». C'était tellement bien l'Égypte, n'est-ce pas ? Et Moïse et Aaron supplient le peuple de ne pas se rebeller contre Dieu. Mais le peuple se rebelle contre Dieu, se rebelle en tout cas contre Moïse et Aaron, et se prépare à les lapider. Après tout ce qu'ils ont vu de Dieu, après les 10 plaies, après la mer rouge ouverte en deux, après tous les miracles qu'ils ont vus, ils se préparent à lapider Moïse et Aaron. Et on peut lire dans Nombre 14:10, « La gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. » Et fin de la rébellion. Arrêt immédiat, instantané de la rébellion. Parce que c'est tellement impressionnant que tout s'arrête. Et si vous lisez le récit, qu'est-ce qui se passe après ? Ben, on ne parle plus du tout du peuple, parce qu'ils sont là. La gloire de Dieu est apparue. Et la suite de l'histoire, c'est juste Moïse qui négocie avec l'Éternel l'avenir du peuple. Est-ce qu'il va falloir les détruire ou pas ? Et l'histoire se répète plusieurs fois, avec Corée par exemple. On peut lire aussi dans l'Ancien Testament l'histoire de Salomon qui construit un temple pour l'Éternel. Et il va inaugurer ce temple. On place dans le temple le coffre de l'Alliance, on prépare des sacrifices. Salomon prie, pardon, et on peut lire dans 2 Corinthiens 7. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel, consuma l'Holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pas pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. La gloire de l'Éternel était là, et ils ne pouvaient même pas s'en approcher. Je reviens à l'histoire de Moïse, et quand il reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï, pour la deuxième fois, parce qu'il y a eu l'histoire du veau d'or entre-temps, Moïse fait une demande à Dieu à un moment donné. Il lui dit « Permets-moi de contempler ta gloire. » Permets-moi, Dieu, de contempler ta gloire. Et on pourrait se dire « Mais Moïse, tu l'as quand même déjà vu, la gloire de Dieu, au travers de tous les miracles. Tu l'as déjà vu, la gloire de Dieu, quand tu es monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. » On peut lire dans Exode 19, versets 18 et 20, je vais même commencer au verset 16, « Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne, et l'on entendit un son de cornes très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée, parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu. » Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du cor allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. tout ce qui se passe, aussi grand et impressionnant que ça a l'air, ce n'était pas encore la gloire de Dieu. Et Moïse demande un peu plus, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu va répondre très partiellement à sa demande. Très partiellement parce qu'il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car nul ne peut me voir et demeurer en vie. » C'est pas que Dieu veut pas, c'est juste que c'est trop écrasant. Est-ce que vous pouvez vous approcher du soleil sans être brûlé, sans être aveuglé? Est-ce que vous pouvez voir toute la luminosité aveuglante de la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez toucher du doigt l'infini, la perfection absolue de Dieu? Non, c'est trop. Et toutes les révélations de la gloire de Dieu qu'on peut voir dans la Bible et dont la Bible parle ne sont que des révélations partielles, presque masquées. Parce que la gloire de Dieu, c'est juste trop impressionnant, trop écrasant. Et pourtant Dieu veut la montrer, cette gloire. Dieu veut la partager. Fred nous lisait tout à l'heure Ésaïe. On voit un peu plus loin dans quelques versets, quand Ésaïe parle du jugement, quand il parle que Dieu va venir avec le feu et l'épée pour juger, il dit « Voici, je vais venir rassembler tous les peuples et des gens de toute langue. Ils viendront et verront ma gloire. » Dieu a envie qu'on voie sa gloire. Quand Paul écrit aux Éphésiens, on avait parlé il y a 15 jours de cette magnifique introduction dans le livre des Éphésiens, ces 12 versets, une seule phrase, où Paul exalte de louanges, il rappelle un tas de choses absolument extraordinaires que Dieu a fait, qu'il nous a comblés de grâce, il parle de l'excellence de l'œuvre de Jésus, il parle de l'Esprit que le Père nous a donné, qui est ce sceau, qui est la preuve que nous lui appartenons. Bref, il parle de tout ce que Dieu a fait, qui est époustouflant. Et il termine en parlant des œuvres de Dieu en disant « Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Tout aboutit à célébrer sa gloire. Tout ! Tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait a un but, un objectif. Sa gloire. Et que nous le célébrions. Que nous soyons remplis d'admiration. À quel point il a du poids et de l'importance dans tous les domaines. À quel point il est merveilleux. Et d'ailleurs, on a juste été créés pour ça. Puisque dans ce passage d'Éphésiens, il dit au verset 11 et 12, « Vous avez été, nous avons été, destinés d'avance à célébrer sa gloire. » Vous êtes là pour ça. Dieu vous a créé pour ça. Dieu veut ça. Pour réaliser à quel point il est parfait, il est bon, il est grand, il est saint, il est puissant, il règne. Bref, à quel point il est glorieux. Nous avons été créés pour être émerveillés devant Dieu. Et c'est bien pour ça qu'il a dû intervenir dans sa grâce infinie et son amour parfait pour régler le problème du péché. Le problème de mon péché, le problème de ton péché, parce qu'à cause de ce péché, on n'a pas accès à Dieu. Paul, dans sa lettre aux Romains, nous fait un super exposé de plein d'éléments doctrinaux essentiels, et il parle du péché, il dit, et vous connaissez sûrement ce verset de Romains 6, 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit un peu avant, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de quoi ? De la gloire de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de fondamentalement dramatique à ne pas avoir accès à la gloire de Dieu. Paul le met au même niveau que la mort. Avoir accès à la gloire de Dieu, c'est la vie. Ne pas avoir accès à la gloire de Dieu, c'est la mort. Et dans un sens, c'est évident, puisque voir la gloire de Dieu, c'est voir Dieu lui-même. C'est voir celui qui est à l'origine de la vie, c'est voir celui qui est la vie même. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de Dieu, c'est être privé de la source de toute vie. Et on se souvient, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, Dieu lui dit quoi ? Tu ne peux pas voir ma face. Parce que je suis profondément glorieux. Voir ma gloire, c'est me voir. C'est mon essence même. Par définition, Dieu est glorieux. Et voir la gloire pleine et entière de Dieu, c'est juste voir Dieu. Comment faire alors ? Et on sait que Dieu résout ce dilemme de notre péché, ce qui nous empêche d'accéder à lui au travers du Christ. Quand je lis la suite de Romains 3, 23 ou la suite de Romains 6, 23, eh bien Paul parle de la délivrance, de la justice que nous avons en Jésus, de la vie que nous avons en lui. Jésus, ce Fils de Dieu, nous permet justement d'avoir accès à la gloire de Dieu. D'ailleurs, Hébreux nous dit, en parlant de Jésus, ce Fils, il est lui-même le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Par Christ, nous avons accès à la gloire de Dieu, nous avons accès à Dieu. On se rappelle d'ailleurs le disciple Philippe qui demande à Jésus de lui montrer le Père. On peut lire ça dans Jean 14. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je veux juste voir Dieu. Et j'ai rien de besoin de plus dans ma vie. Quelle belle demande !» Et Jésus lui dit, lui reproche, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et cette célébration de la gloire de Dieu devient maintenant possible. Quand je parle de célébration, puisque nous sommes faits pour ça, je parle de louange, je parle d'adoration, je parle de toutes les manières que nous avons pour exprimer notre émerveillement. Mais je parle aussi de célébrer la gloire de Dieu par la manière dont nous vivons. Si Dieu fait tout pour sa gloire, si Dieu fait tout pour nous montrer à quel point il est admirable, il est merveilleux, il est extraordinaire, nous sommes invités, nous aussi, à tout faire pour montrer à quel point il est admirable, il est merveilleux, il est extraordinaire. Nous sommes créés pour célébrer la gloire de Dieu par notre expression, mais aussi par nos vies, par nos choix de vie. Quand Paul écrit aux Corinthiens dans sa première épître, il parle de sujets sensibles et difficiles pour l'Église, celle des viandes qui avaient été utilisées lors des sacrifices pour les idoles. Est-ce que les chrétiens, dans la liberté qu'ils avaient avec Christ, avaient la liberté de manger ces viandes-là, ou est-ce qu'il fallait, par motif de conscience, éviter de manger ces viandes-là ? Et Paul leur donne quelques éléments et il termine par « Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà le critère absolu et ultime. Voilà une manière de célébrer la gloire de Dieu. Dieu est tellement glorieux que ça doit être aussi notre but et notre préoccupation. Paul lui-même, quand il parle de son engagement pour les églises, à un moment il fait une collecte pour une église, l'église de Jérusalem qui est dans le besoin, et il dit « c'est pour la gloire de Dieu lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service ». Paul avait conscience et tout ce qu'il faisait était axé pour la gloire de Dieu. Et il nous invite à faire, nous aussi, tout pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que quand on relit les épîtres ou les différentes lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament, quand on repense à tout ce que les auteurs du Nouveau Testament nous invitent à vivre, la manière dont nous devons gérer nos relations, dont nous devons nous comporter, ce qui doit sortir de notre bouche, faites tout pour la gloire de Dieu. Quel beau critère ! Montrez par vos vies à quel point il a du poids, à quel point il est important, à quel point il mérite l'honneur et l'admiration. Voilà pourquoi on l'a mis dans notre vision. Si Dieu fait tout pour sa gloire, alors nous aussi, il nous invite à tout faire pour sa gloire. Parce que Dieu, il est tellement extraordinaire, il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement beau, il est tellement glorieux. Et lui a envie qu'on le voie, lui a envie qu'on le reconnaisse, qu'on l'admire, parce qu'il est infiniment admirable. Et il nous dit que nous avons été créés pour cela, pour être émerveillés devant lui. Alors oui, au travers de notre vision, nous voulons vraiment réaliser ça. Nous voulons le dire qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Nous voulons le célébrer, nous voulons le louer, nous voulons le vivre dans notre vie de tous les jours. Et pendant que nous le vivons, nous avons aussi les regards fixés sur l'espérance que nous avons en Christ. Paul en parle à Tite, notre bienheureuse espérance. En attendant, nous vivons dans le temps présent, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. C'est notre espérance. C'est la chose la plus désirable. J'aimerais revenir à ce dimanche des rameaux. Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de sa gloire. La gloire qu'il avait auprès du Père. Dans Jean 17, dans la prière qu'il fait avant de mourir, il demande au Père l'unité, on en avait déjà parlé la dernière fois, il demande aussi au Père de lui rendre la gloire qu'il avait auparavant auprès de lui. Et on sait que quand il est remonté auprès du Père, Dieu a répondu, le Père a répondu à cette prière du Fils. Parce qu'il y a deux personnes qui ont vu Jésus après qu'il soit remonté auprès du Père. Il y a Paul, et quand il l'est vu, il a tellement été ébloui qu'il est devenu aveugle. Il a fallu un homme de Dieu qui prie pour lui pour qu'il retrouve la vue. Il y a Jean qui a une sorte de vision qu'il a retransmise dans l'Apocalypse. Première chose qu'il voit, c'est Jésus et il tombe mort devant lui. Parce que Jésus avait retrouvé sa gloire. Mais là, sur le chemin de Jérusalem, il n'a pas encore retrouvé sa gloire. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément glorieux dans cette scène. Que Jésus dise, même s'il se taise, les pierres crieront. Quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, Dieu lui répond qu'il ne peut pas voir sa face et vivre. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on a lu. Permets-moi de contempler ta gloire, tu ne pourras pas voir ma face. Mais Dieu répond partiellement à sa demande et il va lui montrer un petit aspect de sa gloire, celui que Moïse peut voir. Mais finalement, si Dieu le choisit, c'est que cet aspect-là, c'est un aspect important de sa gloire de Dieu. Il lui dit quoi ? Je passerai moi-même devant toi, je ferai passer, pardon, moi-même devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Dans la gloire de Dieu qui recouvre l'ensemble de ses perfections, l'ensemble de ses attributs, et en même temps qu'on retrouve parfaitement une gloire parfaite sur quel que soit l'attribut qu'on considère de Dieu, Dieu choisit, pour montrer sa gloire, de montrer d'abord son amour et sa bonté. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir là, dans cette montée de Jésus à Jérusalem. On voit un homme, on voit un simple homme. Car il était un simple homme. Mais pourtant, c'est le Fils de Dieu qui a renoncé à toute sa gloire et à sa grandeur. On voit un simple homme, mais c'est Dieu le Fils qui vient en toute humilité sur un âne. Il ne vient pas en roi conquérant, mais en roi serviteur. Il ne vient pas affirmer son autorité. Il vient pour mourir pour ceux qui ne le méritent pas. Et c'est ce qu'on est en train de voir là, dans cette montée à Jérusalem. Il ne vient pas pour nous écraser par la gloire de sa puissance et de sa grandeur. Il vient nous témoigner de la gloire de son amour. Il y a quelque chose là, dans cette scène, de profondément glorieux, parce qu'on est en train de voir l'amour, la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu. Pour qu'on soit émerveillé, touché, bouleversé par l'amour si grand, si parfait, si glorieux de Dieu. Je vous invite juste à terminer ce culte par un temps de prière et un chant, et je vous laisse juste vous exprimer par qu'on soit juste émerveillé.